écoutez la French Radio.
Donc Philippe Chandon-Mouette, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour ouais. Thierry, bonjour Jean-Guillaume et bonjour François, voilà, et bonjour aux auditeurs.
Bonjour Philippe, on est ravis de vous accueillir sur l'antenne de la French Radio. Je ne sais pas quel temps vous avez à Bordeaux.
Il fait très beau, il fait très beau, il fait très beau. On a beaucoup de chance. Ça s'annonce vraiment lumineux et le temps est très agréable.
Bon, c'est pas trop dur le confinement ?
Vous avez les confinement, bien sûr, il y a des règles à respecter. D'abord, la santé de tous, mais il ne faut pas que ça soit non plus trop contraignant. Donc, évidemment, on a pris des mesures importantes pour, je dirais, le château de Ferrand, qui est donc notre propriété, la propriété familiale que je vais vous parler, si François souhaite peut-être introduire le sujet.
Absolument. François, c'est à vous. Parlez-nous, François de Bloodwine. Alors, lui, il est à Lisbonne. Il a beau temps aussi. C'est ce que je peux dire, en tout cas, pour aujourd'hui. Ça va, François? François n'a pas ouvert son micro, donc c'est quand même fabuleux. Alors, il parle François... sans micro.
Ah, voilà, c'est la radio. Il y a du mime à la radio.
Il nous faisait du mime.
C'est pas toujours facile, vous savez. C'est un vrai professionnel de la radio. Comme vous, Thierry, comme vous, Jean-Guillaume.
Mais on apprend tous les jours.
Donc, je voudrais remercier Philippe Chandon-Mouette qui effectivement nous fait l'amitié de venir en direct sur la French Radio nous parler du château de Ferrand. Alors château de Ferrand, on va parler de Saint-Émilion, donc côté Bordeaux, et Saint-Émilion Grand Cru. Alors je vais vous raconter une petite anecdote sur le château de Ferrand, puisque j'avais organisé un dîner il y a quelques années maintenant autour de certains amis amateurs de vin, et j'avais servi le château de Ferrand. Et eux avaient lu l'étiquette Grand Cru, mais ils dit « mais c'est fou, tu nous as servi des vins exceptionnels à des prix exorbitants. » Et la réalité, c'est que j'avais dit « écoutez, par amitié, forcément,
on va s'inviter chez vous,
ses amis. Voilà, on soit avec des bons vins.
Ah, ouais,
quelques
ouais.
semaines plus tard,
si vous avez,
plus tard, un des amis est venu et je lui dis « écoute, je vais te rassurer, je te présente les différents vins du château de Ferrand, puisque vous avez un Saint-Émilion Grand Cru et puis d'autres vins dont Philippe va parler. » Et je lui dis, voilà, tu vois, maintenant, tu as les prix. Et on est sur des grands crus aux alentours de 40 euros, plus ou moins. Quand on parle de Saint-Émilion Grand Cru, on pense à certains noms qui, eux, s'arrachent à des prix à plusieurs centaines d'euros. Donc, chez Bloodwine, il n'y a pas de compromis sur la qualité. Et ça a été une recherche permanente de trouver des producteurs de qualité qui, non seulement font du vin, mais plus que du vin, on va parler d'écologie notamment. Et donc, on avait choisi, quand on a ouvert il y a 2 ans, le château de Ferrand, dont nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe, qui en est le propriétaire. Voilà pour la petite présentation du château. Donc, je vais laisser la parole à Philippe. Philippe, est-ce que vous pourriez nous présenter le château de Ferrand que vous avez, dont vous avez parlé, qui est votre propriété familiale?
Merci François. Oui, Château de Ferrand est situé au sud-est de Saint-Émilion. C'est une propriété familiale qui appartient à ma belle famille, la famille Bic. En réalité, mon feu beau-père, le baron Bic, a acheté cette propriété en 1978 et il a eu un coup de foudre pour cette propriété qui a été construite en 1702 par Élie de Béthouleau, qui est un noble de Bordeaux. Et aujourd'hui, cette propriété est détenue par mon épouse et moi-même et les sœurs de mon épouse. En fait, mon beau-père a eu 11 enfants et j'ai épousé la numéro 10, voilà, qui s'appelle Marie-Pauline.
Est-ce qu'elle porte le maillot? Est-ce qu'elle porte le maillot?
Pardon?
Est-ce qu'elle porte le maillot, le numéro 10 dans le dos?
Bien sûr, elle porte même, je dirais,
parce que c'est important. Le maillot. C'est un maillot qui est quand même hyper connu en France, hein. Le oui. 10, hein. Mais pas qu'en France d'ailleurs, mais ça évoque tout de suite certains joueurs. Voilà.
Voilà, tout donc, à fait.
Pardon, c'était juste une aparté.
Non, je vous en prie, pas de problème.
Donc elle porte le maillot. Donc, génial.
Voilà. Et cette propriété est une propriété de 42 hectares. Dont 32 plantés. Et vous avez 10 hectares de bois, de prés, qui créent un écosystème extraordinaire, d'où cette propriété est située sur le plateau argilo-calcaire du haut de Saint-Émilion. Donc, nous avons beaucoup de chance parce que grâce à la localisation des vignes, nous avons eu de la chance en 2017 et aujourd'hui en 2020 de pas avoir été ou très, très peu touchés par ni le gel, ni par la grêle. Et il faut savoir qu'en 2017, beaucoup de nos amis, confrères, ont été touchés et malheureusement, ils n'ont pas pu présenter des vins à cette époque. Et la localisation, je dirais, du château de Ferrand se situe donc à 102 mètres au-dessus de la mer. Et ça, c'est très important pour nous, pour les vignes et pour la qualité de notre vignoble.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire juste un petit peu, en deux mots, pourquoi votre feu beau-père avait eu vraiment un coup de foudre pour la propriété? C'est quand même une propriété exceptionnelle d'un point de vue architectural.
Architectural, tout à fait, parce que d'abord, c'est une propriété d'un seul tenant. Donc, vous avez 42 hectares d'un seul tenant. Les 32 hectares tout autour, et autour, c'est une ceinture boisée. Et cette ceinture boisée vous donne, si vous voulez, un écosystème, que ça soit pluie, soleil, gel, indirectement, ça améliore, si vous voulez, la qualité, je dirais, de l'élaboration du vin chaque année. Et il est tombé amoureux de cette propre bâtisse qui est du XVIIIe siècle et qui était construite par Élie de Béthulot, comme je le disais tout à l'heure, et en souvenir, en honneur de Louis XIV. Et vous avez deux petites ailes qui sont magiques et vous avez un parc d'arbres tricentenaires qui sont magnifiques. Et là, nous pouvons recevoir à la propriété. L'année dernière, en 2019, nous avons reçu 12 000 personnes à travers soit des dégustations, soit des visites, soit des séminaires. Et nous, maintenant, nous pouvons recevoir à la propriété puisque nous avons terminé 3 ans de travaux à l'intérieur du château et nous pouvons recevoir à la française, qui est très important pour l'amateur et le passionné de vin. Vous parliez tout à l'heure de mon nom. En fait, si vous voulez, moi, je viens de la famille qui a, je dirais, établi les commandes de Moët-et-Chandon en 1743. Aujourd'hui, Moët-et-Chandon appartient à Moët-Hennessy. Moët-Hennessy appartient à LVMH. Et aujourd'hui, c'est une société familiale du côté de la famille Arnault qui détient plus de 47% de la société. Donc, Donc, en épousant Pauline Bic, si vous voulez, ma belle-mère qui avait cette propriété, puisque mon beau-père est décédé en 94, avait entre les mains cette propriété. Et parmi ses 10, 11 enfants, elle a demandé à chacun de savoir qui souhaitait reprendre cette propriété. Et les yeux sont se tournés vers nous. Et on a fait un projet de vie, puisque cette propriété était en grand cru, est devenu en grand cru classé. Donc, je vais vous expliquer comment, en 2012, si vous voulez, à Saint-Émilion et Régie est donc un classement de Saint-Émilion. Le classement de Saint-Émilion est tous les 10 ans. Donc, on a eu un classement en 2012. Il y en aura un autre en 2022. Et ce qui s'est passé, c'est que quand nous avons...
Oui, si je puis me permettre une parenthèse, c'est une caractéristique assez exceptionnelle dans les vignobles français. C'est que Saint-Émilion, depuis 1955, date du premier classement, a dit tous les 10 ans, nous revoyons nos critères et nous revoyons nos classements. Ce qui met les vignerons sur le grill, parce que tous les 10 ans, on peut se retrouver avec des vins qui sont déclassés. Si en termes de qualité, etc., on n'a pas fait ce qu'il fallait du côté de Saint-Émilion. C'est exceptionnel parce que si c'était le cas dans certaines autres régions, il y a certains vignerons qui vivraient beaucoup moins bien.
C'est vrai que le classement 1855 est immuable. Donc, vous avez plusieurs régions à l'intérieur de Bordeaux, des classifications, et donc la classification de Saint-Émilion nous permet de faire travailler, si vous voulez, la propriété et d'améliorer nos vins. Donc, quand nous avons, Pauline et moi, repris cette propriété en 2005, nous avons décidé de faire une restructuration vitale au niveau du vignoble, donc c'est-à-dire un accroissement au niveau des plants. Et puis, nous avons arraché certaines parcelles pour en replanter d'autres. Et nous avons aussi amélioré la vinification, c'est-à-dire allongé au niveau de la vinification de 14 à 16 mois. Et puis, nous avons aussi réduit, au niveau des fûts, des tonneaux, nous avons réduit la flamme, si vous voulez. On a pris des tonneaux à flamme moyenne, qui est important.
Donc, ce qui est important, c'est que ça donne moins ce côté boisé qui fait beaucoup plaisir aux Californiens, mais qui, pour moi français, me donne l'impression de boire du jus de bois.
Non, tout à fait. Et ce qui est important de dire, c'est que Château de Ferrand essaye ou travaille sur la qualité du vin et donne et transmet, si vous voulez, dans la bouteille, je dirais, l'identité, l'ADN du terroir.
Le terroir,
il est composé de Merlot à plus de 82% et de Cabernet Franc à 18%. Il y a quelques années, nous étions sur trois cépages, Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. Et nous nous sommes aperçus, à cause, je dirais aussi, de l'évolution climatique, que le Cabernet Sauvignon n'évoluait pas très bien à l'intérieur de notre terroir. Et c'est pour ça que nous avons fait une deuxième restructuration de vignoble et nous avons arraché les Cabernets Sauvignon au profit du franc. Si vous voulez, sur l'argile, vous avez le merlot et sur le calcaire, vous avez le cabernet franc. Et donc, l'un donne la structure et l'autre la légèreté et, je dirais, l'élégance des vins.
Philippe,
c'est très important pour nous de traduire, je dirais, la transparence de notre terroir.
Philippe, quand vous parliez tout à l'heure en disant on a prolongé de 2 mois, donc ça donne quoi? C'est ce que je vous ai entendu dire il y a quelques instants. Est-ce que dans ce cas-là, ça va donner encore plus de corps au vin ou ça va le faire monter en degré?
Alors, vous avez donc une méthode assez traditionnelle parce que nos cuves, si vous voulez, c'est des cuves béton, thermorégulées, à l'ancienne, si vous voulez. Et le fait d'allonger permet, si vous voulez, de pouvoir aussi profiter à certains tanins, de pouvoir plus se fondre et de pouvoir, si vous voulez, lorsqu'une bouteille est ouverte, de dire cette bouteille va aller avec tel mets et avec un autre. Aujourd'hui, il est assez courant de pouvoir prendre un poisson avec un vin rouge léger. Et c'est pour ça que nous avons, à l'intérieur de la propriété, créé, deux vins. L'un qui est un grand cru classé, où nous avons eu de la chance, et parce que le travail a été fourni, nous avons été récompensés en 2012 de devenir grand cru classé. Et nous avons créé un deuxième vin qui s'appelle le différent du Château de Ferrand, pour jouer sur le mot, et qui est un grand cru. Donc, si vous voulez, pour que toute notre clientèle puisse nous suivre dans l'élaboration de notre qualité, puisque l'exemplarité est importante pour nous, nous avons voulu faire deux vins, l'un grand cru classé, l'autre grand cru, afin de permettre à ce que chacun puisse avoir sur sa table, une ou deux bouteilles.
Très bien. Et alors, justement, parlez-nous de Bordeaux avec ses grands vins. Vous avez toujours un premier, un deuxième vin. Vous avez une approche différente, finalement, sur le différent de Château de Ferrand. C'est une approche plus de partage et moins une approche où vous avez les vieilles vignes qui, généralement, font les premiers crus et les vignes les plus jeunes font un deuxième vin qui est tout aussi bien fait de par la qualité des hommes et des femmes qu'ils font, mais qui est destiné à avoir finalement une approche commerciale différente.
Oui, tout à fait. Si vous voulez, au niveau du deuxième vin, c'est un vrai deuxième vin. Et donc, ça, si vous voulez, ces raisins viennent du même terroir. La seule différence, c'est l'assemblage. Nous donnons, si vous voulez, aux différents un aspect plus gourmand, plus yummy, comme on peut dire en anglais. Et si vous voulez, le fait que lorsqu'il fait très chaud, et certainement à Lisbonne, il fait très chaud, vous avez la possibilité d'ouvrir sur une bonne viande un bon Saint-Émilion Grand Cru et vous ouvrirez avec plaisir un différent qui vous permettra de ne pas être trop asséchant, mais non plus être trop sur le bois et non plus être sur le fruit, si vous voulez. Et donc, ces goûts de cerise noire ou de fruits noirs permettent, si vous voulez, d'avoir une texture tout à fait veloutée et d'apprécier en même temps la bonne viande que vous pouvez découper.
Donc, on est plus sur un vin un peu plus facile à boire, entre guillemets. On va pas dire un vin de soif parce qu'on est en Saint-Émilion, mais l'idée c'est ça.
C'est ça, c'est un vin plaisir. Alors évidemment, là au niveau de l'assemblage, on va donner un coup de barre important au niveau du merlot. Il y aura 95 à 98% de merlot, ce qui veut dire que si vous avez moins d'acidité dans, je dirais, la composition de l'assemblage, c'est un vin qui sera moins de garde. De garde, on parle de 2 à 5 ans au niveau du grand cru. Pour un grand cru classé, ça va de de 15 à 20 ans, si vous voulez, parce que vous avez l'acidité, si vous voulez, permet au vin de pouvoir
voyager, oui.
De voyager, de vieillir à travers les années. Et puis, donc en général, un grand cru classé, nous l'ouvrons à partir. Il peut se garder, conserver, bien sûr, à l'abri de la lumière. Il faut toujours ouvrir entre 17 et 18 degrés, une demi-heure avant. Pas le décanter, mais en tout cas, le servir comme ça, avec la bouteille. Évidemment, sur des vieux vins, on a la possibilité de les décanter. Mais bon, c'est à chacun.
Alors,
personnellement, je préfère décanter les jeunes vins, moi. Justement, oui. pour les assouplir un peu, alors que les vieux vins, j'ai toujours peur de le casser.
Alors, il y a deux théories.
En l'oxygénant trop.
Il y a deux théories. Cette théorie, si vous voulez, de soit si vous le décantez, vous le prenez, à ce moment-là, vous le cassez, entre guillemets, soit vous l'ouvrez tout de suite, et alors, à ce moment-là, vous avez l'effervescence le plus croquant, si vous voulez, tout de suite en bouche. Et après, peut-être, avec le fil du temps, évidemment, le vin s'étiole.
Jean-Guillaume, moi, c'est pour ça que j'aime bien ouvrir deux bouteilles. Une décantée, une pas décantée. C'est bien, c'est pas mal.
Ce serait pas le commerçant qui reprend le pouvoir, là?
Ah, mince. Non, ouais, il est en train de nous dire...
On n'en parlait pas.
Il est en train de nous dire, j'en ai acheté deux pour le prix d'une.
Alors ça jamais. Non. C'est surtout sur des vins de qualité.
Oh là, et on peut lancer. On pouvait le lancer. On savait jamais. On sait jamais. Hein, vous auriez pu répondre. Mais oui, tout à fait.
Eh ben non, c'est non la réponse. Mais alors, je voudrais revenir sur un engagement assez important. Donc Philippe a parlé de la restructuration de la propriété, des investissements qui ont conduit à une récompense en étant classé grand cru de Saint-Émilion en 2012. Parlez-nous de votre engagement pour le respect de l'environnement.
C'est très important, que ça soit au niveau de la santé de nos employés à l'heure actuelle, au niveau, je dirais, du Covid-19. Mais revenons sur la viticulture. Nous sommes en culture raisonnée. C'est-à-dire que, alors, nous avons plusieurs étapes. Nous avons été certifiés Terra Vitis et HVE. HVE, c'est haute valeur environnementale numéro 3. Donc, c'est des certificats qui sont distribués chaque année où les personnes viennent ausculter, si vous voulez, la propriété, regarder tout autour comment ça se passe. Et nous avons une politique très stricte. Nous ne mettons pas ni de, je dirais, il n'y a pas de fertilisants, ni de ce qui est…
Les herbicides, etc. Pas d'herbicides non plus, j'imagine.
Pas d'herbicides, bien sûr, et c'est très important. Le travail est fait à la main. Il n'y a pas de machine, si vous voulez, tout est fait à la main. Et ce qui était très important, la culture raisonnée, ce qu'il voulait, c'est un passage entre aujourd'hui le monde moderne et le monde ancien. Et nous tendons à venir, c'est que au fur et à mesure de la restructuration de notre vignoble, nous avons décidé de planter quelques hectares en bio pour déterminer si notre terroir est adapté, ce qui n'est pas évident à tous, parce que certaines propriétés peuvent le faire, certaines ne peuvent pas. Et donc,
ce qu'il y a, c'est que, alors, tout le monde devrait pouvoir le faire, mais souvent, on est embêté par le passif. C'est-à-dire que si vous avez un prédécesseur qui s'est gorgé d'herbicides, d'intrants chimiques, etc. En général, il a bousillé le sol, donc il n'y a plus de faune ni de flore dans ce sol, et il est plus capable de fonctionner. Mais si vous avez 10 hectares d'arbres autour, on sait que l'équilibre des sols, c'est un équilibre, enfin pour les sols agricoles, agro-silvio-pastoral, donc des arbres, de l'agriculture et idéalement quelques animaux.
Oui, non, c'est exact. Mais si vous voulez, la propriété n'a pas encore évolué dans ce changement directement au bio pur.
Ah oui, oui. Oui, donc, après, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps.
Ça demande
un peu de trésorerie aussi. Hein.
Oui, c'est vrai. Non, mais tout à fait. Et puis, n'oublions pas que le cuivre, je crois qu'il y a un certain nombre de kilos que l'on met chaque année, qu'on a autorisé. Le cuivre n'est pas vraiment non plus l'ami des sols. Donc, il faut peser le pour et le contre. Et je crois que, voilà, aujourd'hui, on a des voisins tout autour de Château de Ferrand qui sont, certains le pratiquent, mais certains d'autres le pratiquent pas. Et aussi le terroir, parce que l'argile et le calcaire, il faut doser un tout petit peu la façon de pouvoir exploiter nos vignes. Et retrouver aussi l'ADN du terroir. Et c'est vrai que certains terroirs en bio, au niveau de la dégustation, sont peut-être un peu différents et nos vins vont peut-être évoluer dans cet esprit. C'est toute une culture, si vous voulez. On y s'y attelle. Ce qui est très important au Château de Ferrand, c'est qu'on respecte l'environnement et c'est certifié par des organismes d'État. Et ça, c'est très important pour nous. L'important, c'est la qualité, mais aussi le respect de la nature et de l'environnement.
J'espère. Ouais, c'est vrai. Et l'important, c'est la démarche. En fait, c'est ça. C'est,
bien sûr. Bien
absolument,
sûr.
C'est... Et en termes de Covid, de confinement, etc., est-ce que ça a changé quelque chose chez vous au quotidien dans le travail de la vigne?
Alors, travail de la vigne, non. Oui et non, parce que je dirais que oui, parce que nous avons pris des mesures barrières, c'est-à-dire que chaque personne qui est dédiée à la vigne porte un masque et des gants et doit nettoyer ses outils matin et soir. Et il y a un espace, bien sûr, barrière. Donc, les rangs de vignes sont assez, c'est facile à déterminer.
Ouais.
Bien sûr, au Nouville, le no-tourisme, le château est totalement fermé. Donc, bien sûr, nous sommes privés de tout, je dirais, l'exemplarité, ce que j'appelais la cuisine à la française, de recevoir. Nous avons créé un potager, vous voyez, pour pouvoir permettre à nos invités de pouvoir déguster les fruits et légumes de la propriété. Aujourd'hui, malheureusement, ce château est fermé. Il rouvrira, j'espère, en tout cas, peut-être au mois de juillet, lorsque les autorités françaises nous l'autoriseront.
Et en termes de business, vous vendez un peu de vin en ce moment ou tout est à l'arrêt aussi?
Alors évidemment, quand vous êtes confiné, vous profitez des bons plats et vous profitez aussi de votre cave. Et il est certain qu'aujourd'hui, nous avons quelques particuliers qui appellent le château pour être livrés parce que leur cave est à sec. Donc, il est vrai que nous avons des commandes de particuliers. Les restaurants et les bars sont fermés et les cavistes, petit à petit, sont en train de reprendre et d'ouvrir. Et nous sommes en train aussi au château de Ferrand de réfléchir à comment pouvoir prendre la possibilité de continuer
à commercialiser.
Voilà. Est-ce que nous allons le faire sur la place de Bordeaux? Alors, vous savez que la place de Bordeaux est composée de négociants et de courtiers. C'est eux qui, si vous voulez, qui sont un peu la lumière qui avance à travers les grands pays comme les grands pays asiatiques aux États-Unis. Donc,
à Bordeaux, souvent le vigneron ne distribue pas vraiment son vin. C'est-à-dire qu'il le produit et puis ensuite il fait appel aux courtiers et aux négociants qui eux vont l'exporter et le vendre.
Essayons d'expliquer.
Oui, c'est-à-dire c'est un accompagnement. Si vous voulez, d'abord le courtier va donc vous pouvez choisir plusieurs courtiers et puis vous créez un pool de courtiers et ces courtiers ont dans leur bagage, des maisons de négociants qui sont plutôt, plus ou moins, si vous voulez, plus ou moins armées aux États-Unis, plus ou moins, ils ont d'excellents distributeurs en Asie. Donc, il y a un panel important de négociants. Et là, en tant que propriétaire, nous allons accompagner le négociant à travers des voyages. Malheureusement, les voyages ne sont pas possibles. Donc, on va essayer, nous sommes en train au Château de Ferrand, de réaliser des vidéos, que ce soit des propriétaires et du directeur, ainsi que du directeur technique, de pouvoir présenter nos vins, puisqu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller au-devant de la clientèle, si vous voulez. Donc, nous allons aller au-delà, nous allons aller vers ces personnes pour leur apporter la matière et qui puissent découvrir nos vins à travers ces vidéos ou des commentaires que les journalistes vont faire à terme sur ces vins-là.
Mais justement, Philippe, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Il y a un article aujourd'hui sur le Figaro, pour ne pas le citer, qui parle de digitalisation et qui dit que finalement, pour Bordeaux, comme tous les vins, les grands vins dans tous les pays du monde, c'est peut-être une opportunité que de travailler différemment en ayant capacité, par exemple, d'envoyer les vins, donc des échantillons des vins, notamment en primeur, et après de faire des conférences comme on fait en ce moment à la French Radio via Zoom, et d'avoir finalement le producteur, la personne qui fait les vins, en direct avec tous ses clients dans le monde. Mais enfin, est-ce que ça, c'est un modèle auquel on peut réfléchir, on peut
l'anticiper? Mais François, mais si Philippe en virtuel, c'est lui qui doit boire pour que nous on le regarde boire. Moi, je me fais du souci sur sa santé hein, dans les semaines alors... et les mois qui viennent.
Hein. Chérie, c'est en fait l'idée c'est que vous envoyez.
Il va avoir des rougeurs, hein, mais elles seront pas forcément dues au soleil. Hein.
Vous envoyez à vos clients des échantillons. Les clients sont en direct avec vous et tout le monde déguste en même temps. Mais au lieu d'aller prendre votre avion, d'aller en Asie, d'aller aux États-Unis, vous êtes finalement à distance et tout le monde fait la dégustation en même temps avec le même produit.
Écoutez-moi, François, je vous propose qu'on essaye tout de suite. Envoyez-nous quelques échantillons, on va pouvoir le faire et le faire partager.
Et je vais, en avant-première, on va le faire.
On va tester la méthode. Non, moi j'avais une question quand même à vous poser aussi. Tout à l'heure, vous avez abordé un petit peu la notion de réchauffement climatique. Maintenant, comment ça va se passer? Parce qu'évidemment, le réchauffement climatique dit que les vins, forcément, de par l'impact solaire, vont être amenés à se modifier. Comment vous l'anticipez?
Je dirais déjà, si vous voulez, l'implication des assemblages que nous allons faire et au niveau degré d'alcool. Il est vrai que les degrés d'alcool, ces dernières années, ont progressé. Et bien sûr, on est tous un peu inquiets de la manière dont le climat se tourne aujourd'hui. Donc, si vous voulez, nous sommes tenus, si vous voulez, de pouvoir présenter des vins assez équilibrés pour permettre à nos consommateurs de ne pas souffrir, je dirais, du degré d'alcool trop important. D'accord. Alors, évidemment, peut-être faut-il vendanger un peu plus tôt. Mais évidemment, si on vendange plus tôt, on n'aura pas peut-être des raisins assez mûrs.
On n'aurait pas les mêmes maturations. Ouais,
ben. Maturation. Donc, si vous voulez, c'est de là où nous avons décidé de supprimer petit à petit au niveau de la restructuration, de la deuxième restructuration du vignoble, le Cabernet Sauvignon, afin de pouvoir présenter des cépages plus allégés, je dirais. Il est important de dire que... Le Merlot et le Cabernet Franc permettent, si vous voulez, avoir un très bon équilibre, une bonne diversité dans l'appréciation des tanins. Et c'est là où la finesse des tanins va pouvoir aussi indiquer la qualité du terroir.
Est-ce qu'on peut imaginer que demain ou après-demain, je vais vous dire une énormité, le Merlot soit plus un cépage qui réussit à Bordeaux parce qu'il fait trop chaud et qu'il faille planter de la Syrah et que Saint-Émilion sera en Syrah?
Non, je ne pense pas. Mais vous savez, les variations de température sont importantes. Il y a à peu près, il y a une quinzaine de jours, il faisait frais quand même. On avait une dizaine de degrés. Donc Pâques, les fêtes de Pâques, on a eu très très chaud. Donc si vous voulez, je ne pense pas qu'il faut changer radicalement de cépage, mais je pense qu'il faut améliorer peut-être les sols et puis travailler aussi la vinification et pouvoir présenter à nos consommateurs quelque chose d'équilibré.
Mais vous avez raison que le sol est sûrement une des clés, parce qu'on s'est rendu compte que sur ces 30 ou 40 dernières années, la vigne était de plus en plus, de moins en moins profond, allait de moins en moins chercher ses nutriments proches de la roche-mère et avait plutôt tendance à partir en largeur qu'en profondeur, ce qui fait des vins qui sont un peu dénués de terroir et des vignes qui sont fragiles et qui sont très, très vite stressées en matière hydrique. Et si vous respectez beaucoup votre sol et que vous passez le moins possible des engins pesants qui écrasent le sol, des gros tracteurs, mais plutôt le cheval et le labour léger, là, évidemment, je pense que la vigne, elle, pourra se défendre naturellement contre le réchauffement climatique et contre les hausses de température.
Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a aussi toute cette période qu'on appelle les vendanges en vert, savoir placer au niveau de la feuille pour que le soleil ne grille pas le raisin, que les grappes soient tout à fait équilibrées. Il y a tout un art et ça demande énormément d'expérience et petit à petit nous formons le personnel du Château de Ferrand à cette nouvelle aventure qui est d'arriver au 21e siècle en tout cas.
Et vous faites ça donc et bourgeonnage, vendage en verre, etc. Ça vous
pratiquez? Oui, tout à fait. Fait partie du travail, le nouveau travail qui n'avait pas été fait précédemment. Donc tout ça, c'est au niveau de la vigne, au niveau de la vinification, et puis je dirais au niveau au niveau des barriques, et puis de l'élevage aussi, qui est important. C'est un assemblage de tous ces méthodes et vinifications qui sont importantes pour nous.
Mais effectivement, on fait du bon vin qu'à partir d'un bon raisin. Donc, au début, et la viticulture, c'est capital, quoi. Quand vous rentrez un beau raisin fin et sain et mûr, c'est beaucoup plus facile après de faire un beau vin, quoi.
Voilà. Et au niveau de la vendange, bien sûr, nous avons une table de tri. D'abord, c'est fait un tri à la main, et puis après, il y a une table de tri. Puis vous avez une table qui calibre la qualité de la chlorophylle, si vous voulez, à l'intérieur du raisin, qui nous permet de déterminer si le raisin peut passer ou pas le cap de rentrer dans
la vinification.
Voilà. Oui, et notre vinification est faite par pressurage directement, si vous voulez, c'est délicatement pressé et je dirais naturellement, et nous retirons, nous avons un marc bien sûr, et nous le faisons au mieux pour l'état de santé de nos raisins.
Très bien. C'est bien. Merci beaucoup Philippe, peut-être pour conclure, vous appréciez les vins du Château de Ferrand bien évidemment comme nous tous. Mais quel vin, vous, à titre personnel, aimez-vous?
Je dirais, j'aime bien la région de Bourgogne, puisque la famille Chandon-Briaille élabore un excellent à Savigny-des-Beaunes. J'aime beaucoup le domaine Chandon-Briaille. Et puis, si on revient sur Bordeaux, j'aime beaucoup les vins de Haut-Bailly, notamment le millésime 2005, très, très équilibré. Et puis, un dernier vin que j'aime beaucoup qui est fait de façon magique, et on en parlait tout à l'heure, mais c'est le domaine Aubryon, vraiment qualité exceptionnelle, des vins vraiment faits très très ciselés, extrêmement extrêmement professionnels et appréciés dans la longueur en bouche, qui est vraiment le mieux pour déguster un vin, c'est de pouvoir la persistance de ce vin à travers un mets et la bouteille, qui est aussi un flacon qu'on aime bien conserver après avoir ouvert cette bouteille.
Merci beaucoup, vous nous mettez bien en appétit. Ça va être l'heure de passer
merci
à table.
Merci à vous tous.
Merci beaucoup Philippe.
Et puis je vous invite à découvrir le Château de Ferrand, en tout cas, lorsque la propriété pourra être visitée.
Et en attendant, on doit pouvoir le découvrir chez un certain Blood Wine.
Bien sûr. Ouais,
vous avez tous les, comme je l'ai expliqué, vous avez tous les vins du Château de Ferrand chez Blood Wines, que ce soit le grand cru classé, mais aussi le second vin, donc le différent. Vous les avez, on les a appréciés depuis le départ. Et comme on en a un petit peu parlé, on l'a évoqué, ce sont des vins sans compromis sur la qualité et le respect des sols, de l'environnement et des hommes et des femmes qui font ces vins.
Voilà, et donc nous serons ravis effectivement, d'abord de pouvoir nous rendre chez Blood Wine et de pouvoir découvrir justement ces vins. Et puis
moi je me rends pas chez Blood Wine, j'appelle et je me fais livrer.
Ouais, il y a les deux solutions, vous voyez. Maintenant,
j'aime que François travaille. J'aime le voir suer.
Bon, maintenant je vais le voir évidemment avec un masque que j'enlèverai quand même pour pouvoir parce que c'est peut-être pas terrible quand même de prendre le vin avec le masque devant. Je pense que ça doit enlever les saveurs et on peut même plus sentir le. Là, ça devient cata. Et ensuite, évidemment, si nous avons cette chance dans quelques semaines, dans quelques mois, de pouvoir être déconfinés et qu'il n'y ait pas de seconde vague, eh ben, en tout cas, ce sera avec plaisir, Philippe, que l'on viendra vous rendre visite dans cette belle région du Bordelais. Philippe Chandon-Mouette, merci beaucoup. Merci beaucoup, François, pour avoir pu organiser justement ce direct. ce direct. Et on sera ravis, en tout cas, que vous puissiez venir de nouveau nous présenter ces vins très prochainement, puis surtout peut-être avoir le plaisir de vous rencontrer aussi à Lisbonne, parce qu'il vous arrive peut-être sûrement de temps en temps, en tant que comme nous sommes tous sur la côte atlantique, de pouvoir venir nous rendre visite en bateau, par voiture.
Vous pouvez nous trouver, c'est facile, on est en bas à droite.
Toujours en bas. Voilà, vous descendez
en bas à droite.
À droite. Voilà.
Merci Thierry, merci Jean-Guillaume et merci François à toi de cette interview.
Voilà, bon, on était ravis de vous avoir. À très bientôt. Bon, eh ben, on va peut-être se quitter aujourd'hui en musique. Il est 12h40, on est en direct sur la French Radio. Ça a été très, très sympa. On a parlé aujourd'hui, justement, avec un viticulteur, avec un producteur, voilà.
Oui, donc, qui a une démarche en plus hyper.
Moi, j'avais juste une question, Philippe, que j'ai pas eu le temps de poser. Avant, au tout début, vous étiez quand même élevé vous étiez de la région de Bordeaux ou vous étiez vous en Champagne?
Non, j'ai été éduqué en Champagne, mais aussi je vivais à Paris.
D'accord. Mais vous avez eu au début, vous étiez plus dans le Champagne que dans le vin, on va dire.
Alors, j'ai eu la chance de travailler pour Moët & Chandon pendant quelques années,
ouais,
avant de rendre mon tablier indirectement, puisque donc la maison appartient à la famille Arnaud. Mm. Mais c'est vrai que j'ai appris par la famille et par mes parents et tout ce qui est, je dirais, le champagne. Vous parliez d'Épernay, de Reims. Pour moi, la capitale du champagne, c'est Épernay. La capitale, oui, de la champagne, c'est Reims.
Oui, tout à fait. Et est-ce que ça vous a apporté un plus par rapport à d'autres de vos confrères et amis d'avoir justement cette double culture, cette culture à la fois du champagne et la culture ensuite du vin?
Je pense d'abord la culture de recevoir à la française. C'est pour ça que, si vous voulez, Château de Ferrand est une très belle propriété. Et à l'intérieur de cette propriété, nous avons réalisé de très jolis travaux pour recevoir nos hôtes comme on peut être reçu chez Moët & Chandon ou dans d'autres maisons de champagne. C'est très important. L'art de vivre, l'art de recevoir, c'est quand même quelque chose de magique en France.
Bon, ben en tout cas, on invite tous nos auditeurs à aller sur votre site, en tout cas pour au moins déjà
dans un premier temps sur le site, oui.
Dans un premier
sur
temps
sur le site internet.
Puis après, ils feront la démarche.
In situ, hélas.
Voilà, et d'aller chez François de Blood Wine pour agrémenter la visite du site avec justement la possibilité
la dégustation,
de la dégustation, tout en rappelant bien entendu qu'il faut boire modérément. Voilà, on le rappelle quand
c'est-à-dire
même.
C'est-à-dire une bouteille à la fois.
Non, Jean-Guillaume, il faut boire modérément, il faut garder, eh ben, vous le savez.
C'est Gérard Depardieu qui m'a dit.
Ouais, vous avez des classiques. Hein. Ok, allez, il est 12h43, merci beaucoup Philippe, merci beaucoup François.
Merci à vous.
On se passe une petite musique, Jean-Guillaume, on se retrouve demain avec notre invité. Demain, on va parler sport, on va avoir un pro du sport, on va tout savoir. Alors il s'appelle, pour tous ceux qui le connaissent, il est à la télévision portugaise, il s'appelle Olivier Bonamici.
Vous écoutez la French Radio.